le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet plus pointu que l'agression sexuelle, soit celui de l'inceste. Il s'agit de l'agression d'un père, d'un frère ou d'un membre de la famille élargie. Le triste sujet est inspiré d'un article du Figaro qui a été publié cette semaine et qui est intitulé « 4 millions de Français victimes d'inceste ». Certains d'entre vous diront que ce n'est pas un phénomène nouveau et que les forces de l'ordre, les services de santé ou les services sociaux s'en occupent. Cependant, il n'y a pas si longtemps que ça, Radio-Canada nous apprenait le 2 octobre 2014 qu'en Allemagne, on se demandait si on ne devait pas décriminaliser l'inceste entre deux adultes consentants. Aujourd'hui, ce n'est plus l'acte qui est commis qui pose problème, mais sa légitimité. Pour savoir si c'est acceptable ou non, sommes-nous arrivés au point que nous devons nous inspirer des primates? Du moins, la question se pose. Et pour ça, nous allons voir un texte de Pierre Léon qui a pour titre « Doit-on légaliser l'inceste? » Écoutez bien ce qu'il dit. À ce sujet, un primatologue québécois, Bernard Chappet, cité par Margaret Somerville, affirme que les primates évitent naturellement l'inceste. C'est ce qui indiquerait instinctivement son danger génétique. À la question « Doit-on tirer leçon des primates? » Alors, la réponse est oui. Mais est-ce que l'activité sexuelle des primates est suffisante pour établir des valeurs morales et des repères éthiques? Évidemment, la réponse est non. En fait, on remarque que les frères et sœurs qui désirent avoir des relations sexuelles consentantes ont été, dans le passé, abusés sexuellement. C'est ce que Peggy Stratt finit par démontrer sur sa page via une citation démontrant que l'inceste est un crime moral parce qu'il est quasiment toujours accompagné d'abus et d'asservissement. Elle ajoute que l'inceste est répréhensible selon elle pour la raison suivante. Il y a quelques mois, une étude majeure diligentée par l'Institut Max Planck avait démontré que l'inceste concernait entre 2 et 4 de la population allemande et qu'il se produisait majoritairement dans des environnements familiaux problématiques, des familles socialement faibles et en grande difficulté. En France, selon un article du Figaro publié cette semaine, on compte 4 millions de cas d'inceste. Donc, sur 66 millions d'habitants, ça représente 6 % de la population. Au Québec, selon le Conseil du statut de la femme, on parle d'une proportion de l'ordre de 15 à 20 %. Ce qu'on remarque également au Conseil du statut de la femme, c'est qu'une femme sur deux, 53,5 % et un homme sur trois, 30,6 % ont été victimes d'actes sexuels non désirés à un moment de leur vie. 4 fois sur 5, ces agressions sexuelles sont survenues avant l'âge de 18 ans. L'Institut national de la santé publique a publié il y a plusieurs années un document intitulé « Survivre à l'inceste ». Dans son enquête auprès de 930 femmes de San Francisco, Diana Russell mentionne cependant que les abus incestueux décrits étaient produits dans 43 % des cas une seule fois, dans 31 % des cas de 2 à 5 fois, dans 17 % des cas de 5 à 20 fois et dans 10 % des cas plus de 20 fois. Quant à la durée, Finkelor constate que la plupart des relations incestueuses qui ont été étudiées durent assez longtemps, entre 6 mois jusqu'à 7 ou 8 ans, la durée moyenne étant de 2 ans. Dans l'étude de Russell, les abus incestueux se sont produits dans 35 % des cas sur une période de moins de 6 mois, dans 31 % des cas pendant plus de 6 mois mais moins de 2 ans, dans 28 % des cas pendant plus de 2 ans mais moins de 10 ans et dans 6 % des cas plus de 10 ans. Pour sa part, Roxane Léouzon mentionne dans un article publié dans le journal Métro intitulé « L'inceste, un problème de société ». Elle mentionne que la majorité des femmes adultes qui vont chercher de l'aide dans les centres d'aide ont subi une agression d'un proche alors qu'elles étaient mineures et environ la moitié ont attendu plus de 13 ans avant de dévoiler ce qui lui est arrivé. Elle va également mentionner que les répercussions sont grandes sur les femmes qui ont subi de tels actes de domination. Écoutez bien, mesdames et messieurs, quelles sont les conséquences qui sont reliées à l'inceste? Anxiété, dépression, problèmes d'alimentation, toxicomanie, automutilation, idées suicidaires, décrochage scolaire, incapacité à travailler, problèmes relationnels et sexuels, et ça, c'est ce qu'a énuméré Mme Diaz dans cet article. Une fois les agressions passées, elle essaie de les mettre de côté pour continuer à vivre, mais les souvenirs finissent par remonter et c'est là que nos groupes de soutien sont nécessaires. Fin de la citation. Et donc, on voit que, moi, ça me touche personnellement parce que j'ai connu quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle par quelqu'un de son entourage et elle avait exactement ces problèmes-là. Anxiété, dépression, problème d'alimentation et puis idées suicidaires. Et donc, est-ce que ça veut dire que chaque personne qui subit l'inceste va finir par s'enlever la vie? C'est pas ça que ça dit. Mais ça dit que il y en a dans ce nombre-là qui vont passer à l'acte. Est-ce que maintenant, ce qu'il faut se poser comme question, est-ce que l'inceste est un phénomène qui est incurable? Est-ce qu'il y a une vie après l'inceste? Eh bien, justement, il y a un article qui a été écrit sur le site page avec un s.infinite.net, donc pages.infinite.net, qui s'intitule « Quelle vie après l'inceste? » Et pour nous aider à comprendre le contexte de la personne qui a été victime d'inceste, Mme Michelle Guy décrit tellement bien ce qui a été brisé. Voici ce qu'elle dit. Voici quelques mots sur la sexualité enfantine. Au-delà de toutes les théories sur la sexualité enfantine, celle-ci est reliée à la joie simple de la vie, c'est-à-dire être touché par des parents aimants, être caressé, être bercé, rire, jouer, s'émerveiller, un monde où l'enfant goûte les joies d'une vie simple dans son corps. C'est cela qui constitue la base de la sexualité adulte. La joie de vivre enfantine. Vous pouvez imaginer le drame lorsque l'enfant vit un abus. L'enfant n'est pas capable de recevoir et d'intégrer dans son système nerveux la sexualité adulte, le plaisir sexuel. Ce n'est pas son monde et cela brise son tissu de vie, sa joie de vivre. Ce tissu est d'une grande délicatesse, d'une grande finesse et d'une grande beauté. Malheureusement, mesdames et messieurs, voici ce qui en résulte. En grandissant, l'enfant éprouve souvent des difficultés majeures à faire confiance aux autres. Des réactions dépressives, de tristesse et de deuil s'installent rapidement. Pour une grande majorité, le suicide sera envisagé. De son côté, Stéphane Kovacs citait sur les pages du Figaro un témoignage, les propos d'une femme qui livre son état d'âme, qui s'ouvre le cœur. Et voici ce qu'elle dit. Voici ce que l'auteur dit lorsqu'il cite cette femme. « Violée dès l'âge de 6 ans, Isabelle Aubry sait combien les conséquences de l'inceste sont multiples, terribles et persistantes. Les traumatismes peuvent tuer même 50 ans après les faits, affirme-t-elle. » Et plus loin, elle va dire ceci. « Or, beaucoup endurent aujourd'hui le cauchemar que j'ai supporté. » C'est incroyable. Hein? Même 50 ans après le traumatisme, ça vient vous hanter et ça a des répercussions dans votre cœur, dans votre comportement. Du moins, c'était le témoignage d'Isabelle Aubry qui a été cité par Stéphane Kovacs sur les pages du Figaro. Et donc, où commence l'inceste? Et c'est intéressant ce que Mme Claude Almos soulève sur la page psychologie.com, puisque psychologie avec un S. Et le problème qu'elle soulève, c'est l'érotisation de la relation. C'est de là que ça part. Elle dit ceci. Le premier de ces critères est celui de l'érotisation de la relation parent-enfant. Les sentiments qui les unissent ne sont pas chastes, ils sont fortement teintés de sexualité, et ce, sans que les uns et les autres en soient forcément conscients. Et c'est ça qui est pervers, mesdames et messieurs. Mais je poursuis. Cela peut être le fait de parents qui répètent ainsi une enfance dans laquelle l'interdit de l'inceste n'a pas été clairement posé. Ils savent consciemment que leur enfant ne peut être pour eux un objet sexuel, mais inconsciemment, ils l'ignorent ou le refusent. Et qu'est-ce que ça produit? Cela donne, par exemple, des pères dont l'attitude face à leur fille est ambiguë. Le désir n'est pas totalement absent des regards qu'ils portent sur elle. Le baiser ont tendance à glisser de la joue à la bouche, les mains à s'attarder, etc. Mais cela donne aussi bien des mères qui jouent les coquettes avec leur fils adolescent, essayant leur robe devant lui et cherchant manifestement à provoquer chez lui une admiration qui les narcissise, qu'elles ne trouvent pas ou ne cherchent pas ailleurs. Et donc, on peut voir que ça peut arriver chez les hommes ou chez les femmes, où est-ce qu'il y a des signaux, si on veut, des signaux pré-incestueux, disons, qui précèdent la passation à l'acte. Mais évidemment, dans la majorité des cas, pour ne pas dire dans la presque totalité des cas, ce sont les pères incestueux qui vont commettre l'acte, et en grande majorité, pour ne pas dire, comme je vous disais, en presque totalité. Alors, elle poursuit en disant « Les climats incestueux se définissent également par une série de non-séparations. Pour que l'interdit de l'inceste soit effectif, il faut en effet que le but de l'éducation donnée aux enfants soit leur sortie de la famille. Quand tu seras grand, tu ne vivras plus avec nous. Tu auras une femme ou un mari, une maison, un travail, etc. » Et donc ça, c'est important comme point de repère. Est-ce que notre éducation en tant que parent lance un signal clair? On t'aime, tu es le bienvenu parmi nous, mais on est en train de te former pour une vie extérieure. On est en train de te former à ne plus être dépendant de nous, mais à arriver dans la vie avec une identité et maintenant avec une recherche d'une vie nouvelle qui va être bâtie autour d'une autre personne qui sera ton épouse ou ton mari. Et dans certains cas, il va y avoir des gens qui vont être seuls, mais ils vont vivre indépendamment de la famille, du noyau familial. Ils vont avoir leur propre vie. Et donc, le problème, c'est que il y a des parents qui vont utiliser leur enfant pour compenser les manques de leur vie, et vont rendre l'opération particulièrement difficile. Et c'est ça qui est le piège, justement. Il y a une sexualisation et même une érotisation des besoins affectifs. Et c'est ça qui va causer un problème relationnel et malheureusement qui pourrait précéder l'acte fatidique. Et donc, j'aimerais vous fournir des statistiques qui proviennent de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Et donc, qu'est-ce que nous dit l'OMS? 90% des femmes atteintes de fibromyalgie auraient subi des agressions sexuelles pendant leur enfance, leur adolescence ou au début de leur vie adulte. Et il y a un nombre de victimes d'inceste qui présentent des gestes d'automutilation, brûlures, entailles, coupures, et pouvant atteindre jusqu'à 58%. 58% des victimes d'inceste pourraient s'automutiler. C'est quand même plus que la moitié. 35% des femmes ayant subi l'inceste auraient des problèmes d'addiction à l'alcool et aux drogues comparativement à 5% des femmes non agressées. Concernant la consommation de drogues et les vécus incestueux, on retrouve chez 29% d'hommes et 55% des femmes toxicomanes des antécédents incestueux. Vous allez dire, attends une minute, tu as parlé de 35%, puis là tu parles de 55%. Mais c'est qu'on le voit sous deux angles. Chez les femmes qui ont subi l'inceste, il y en a 35% de ces femmes-là qui ont des problèmes d'addiction à l'alcool ou aux drogues. Mais chez l'ensemble des femmes qui ont des problèmes de toxicomanie, ben, il y en a 55% qui ont des antécédents familiaux. Donc, on observe d'un angle ceux qui ont subi l'inceste, puis d'un autre angle, ceux qui sont toxicomanes. C'est pour ça que, tout dépendant de l'angle qu'on le regarde, la statistique va différer. Entre 76 et 90% des femmes et des hommes prostitués ont des antécédents d'agression sexuelle pendant leur enfance. La plupart du temps, il s'agit d'inceste. C'est incroyable quand même, hein? Imaginez-vous si on réglait l'inceste, l'impact que cela aurait socialement. 19% des femmes victimes d'inceste ont dit avoir été agressées sexuellement par leur mari, comparativement à 7% des femmes non abusées pendant leur enfance. Et je termine par une statistique qui, pour moi, me brise le cœur, et ça touche les problèmes affectifs. Une forte majorité de victimes d'inceste vivent difficilement leur rapport avec les hommes, et environ 40% d'entre elles ne se sont jamais mariées. Cette dernière statistique démontre que l'inceste a une incidence directe sur le bonheur conjugal. C'est incroyable l'impact, les répercussions que ça a, l'inceste. C'est certain que les gens qui ont vécu l'inceste vont avoir besoin de thérapie et vont avoir besoin qu'on leur montre, par exemple, qu'on leur démontre de la patience, de l'amour, spécialement de la part du conjoint, qui lui va avoir à gagner sa confiance, la valoriser pour qu'il puisse lui démontrer de l'affection sans que ça aboutisse à de la sexualité nécessairement. Pourquoi pensez-vous que les prostituées aimaient Jésus? Parce qu'ils se sentaient aimées pour qui elles étaient, sans qu'elles soient obligées de l'assouvir. L'inceste génère malheureusement un climat de méfiance et demande de la surveillance, d'être prudent, et démontre que l'assouvissement des besoins affectifs passe par la sexualisation et l'érotisation de ces besoins. Ce qui est déplorable, c'est que cette façon d'être comblée produit des victimes. Et c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui me brise le cœur, c'est que l'inceste produit des répercussions jusque dans la vie adulte. C'est pas quelque chose qui se guérit comme une brûlure, c'est pas quelque chose qui se guérit comme un mal de tête. Ça laisse des marques, ça demande du soin. Et comme le témoignait cette dame que je vous ai citée un peu plus haut, même 50 ans plus tard, elle envoie des traces. Et donc, c'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante, leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur @ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!